Leslie Jones au couloir en numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie Jones.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Il est apéro.
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme. Ouais.
Et salut à tous, 141e émission de l'Instant Sport. Alors, il est arrivé la semaine dernière, premier pronostic, premier point sur Marseille, Rennes, Tom Fage, salut.
Bonjour à tous.
Bravo, seul point marqué cette semaine.
Hein. J'ai été efficace.
Et ouais. Alors, il faut que tu saches aussi que l'important dans ce concours, c'est pas de le gagner, c'est de ne pas terminer Fanny. Alors, en parlant de gagner, de terminer Fanny, salut Julien.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, comme moi, parce que moi aussi, première émission, j'avais marqué un point.
C'est ça. Et deuxième saison, tu as attendu la dernière émission pour marquer un point pour pas être Fanny. Alors, c'est quoi ta plus belle victoire? C'est de gagner ce championnat ou de marquer un point sur la dernière journée pour pas être Fanny?
Pas être Fanny.
Ouais, bah, ouais, t'es sûr, c'est sûr.
Parce que sinon, après, j'en avais pour beaucoup d'émissions de chambrage avec vous. Ouais. Déjà que je suis pas ménagé dans cette émission.
C'est ça.
Alors là.
Ouais. Laurent Julien, jamais vainqueur, jamais Fanny. Salut Lolo.
Salut, bonjour à tous.
T'es un peu la Suisse de notre émission, toi.
Ouais, ouais, voilà, c'est ça.
C'est un peu ça. Ouais. Patrick Bianconi qui revient en pleine forme de vacances. Salut Patrick.
Salut, bonjour à toutes et à tous. Et tu sais que c'est dangereux de marquer son premier point sur un match sur Marseille parce que tu as quand même trois supporters de Marseille dans cette émission. Donc il a pris des risques. Attention, attention, ça peut être éliminatoire. Ça peut être éliminatoire. Mais bon, non, ça va.
Après, s'il veut marquer des points, il vaut mieux qu'il dise match nul quand l'OM joue que victoire de l'OM. Tu vois ce que je veux dire. Nicolas Thomas est là aussi. Salut Nico.
Salut tout le monde. Patrick, tu m'as manqué la semaine dernière. On aurait pu parler à Ludo de football, mais bon.
Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que là, avant l'émission, j'ai entendu déjà des trucs. C'est pas acceptable, quoi. Ce qu'il, j'imagine donc ce qu'il a dû dire.
Non, mais ce qui est dit en off reste en off.
Ouais.
Hein, je le sais.
Non, mais c'est pour ça que je fais juste une petite allusion.
D'accord. Mais tu fais bien, tu fais bien. Alors, mais pas de bagarre aujourd'hui parce qu'on va parler de vélo. Hein.
Parfait.
Il n'y a pas de sporting club de vélo marseillais.
Non.
Ça n'existe pas. Jean-Luc Urban, si, le président.
Vélo club La Pomme à Marseille.
Non, mais il parlait du sporting club. Mais
sporting club, ouais. Je te parle.
D'accord.
Jean-Luc Urban.
Est-ce qu'ils appellent Delco, non? Avant, c'était Delco Marseille.
C'est ça.
Ils sont continental. Mmh,
c'est ouais. Ça.
Voilà. Il sait tout, ce
ils sont bien chaussés, quoi. Mmh.
Il venait autour du Gévaudan
régulièrement. Et ouais, Julien, tu es bienvenu. Ouais, t'as pas
c'est
de
l'équipe qu'on bosse sur l'équipe, là, sur les courses de l'équipe, là, Marseille ouais, Delco.
C'est un club formateur. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'étrangers aussi, des coureurs étrangers en devenir.
Ah.
Et des jeunes français.
C'était La Pomme.
Comme Marseille, hein, ils prennent des joueurs étrangers en devenir, des Serbes.
Marseille, ils prennent des joueurs étrangers.
Oui, pas en devenir, c'est vrai. Qui peuvent être en devenir, mais qui le seront jamais. C'est ça. Alors, je disais Jean-Luc Urban, le président du Vélo Club Mande-Lozère.
Non, tu ne le disais pas, nous. Justement. Tu ne l'avais pas encore dit.
Et si je l'ai dit, mais vous parlez par-dessus moi. Bonjour.
Allez, bonjour à toutes et tous.
Alors, on va parler, bien sûr, du traditionnel vétathlon de la ville de Mande-Cœur de Lozère qui est organisé ce dimanche. Peut-être avant de commencer, un mot sur le Vélo Club Mande-Lozère. Savoir depuis quand existe ce club, combien vous avez de licenciés.
Oui, donc actuellement, nous sommes à 90 licences, début d'année. Un début d'année un peu compliqué parce que c'est vrai qu'on a eu de nombreux nouveaux et avec les bénévoles, c'est toujours difficile de pouvoir encadrer les samedis matins, mais en tout cas, une école de vélo qui marche très bien.
Mmh. Nico, tu pourrais l'encadrer vu que tu fais pas de match avec tes féminines.
Je suis sûr que si, j'ai joué ce week-end.
Ah ben tiens, on va en parler après. Du coup, il y a beaucoup de jeunes, c'est quoi les catégories d'âge?
Oui, catégorie d'âge pré-licencié, donc on accueille des petits de 5-6 ans. Voilà, et puis après jusqu'à point d'âge, on va dire.
Mmh. Vélo de route, vélo VTT.
Alors nous, par rapport à la dangerosité de la route, voilà, essentiellement VTT. Voilà, mais après on a des jeunes qui se dirigent vers la route, hein, notamment bon, une pensée pour Théo Laurent hein, qui a été formé au vélo club Mande-Lozère et qui est aujourd'hui dans une des plus belles équipes juniors, donc à l'Île-Jourdain dans le Gers.
Pourquoi le VTT plutôt que le vélo de route?
Ben, le vélo de route, tout le monde connaît la dangerosité de la route.
C'est uniquement vrai pour la dangerosité, c'est...
Essentiellement. En toute honnêteté, il n'y a pas de structure route, effectivement, aussi. Et donc, après, en termes d'équipe, de déplacement, etc., c'est toujours compliqué, donc.
Et pour la Lozère, c'est un beau terrain de jeu pour le VTT.
Oui, pour la route aussi, hein, on le voit. Hein, c'est vrai que bon, Patrick a parlé du tour du Gévaudan, voilà, avec cher à son président Malaval. Mais c'est vrai que bon, c'est fabuleux, c'est sûr. Les gorges du Tarn, il y a un terrain varié pour la route. Nous qui en faisons assez régulièrement, on se régale. C'est varié, mais bon, il faut reconnaître que des fois, on a quand même très très peur.
Comment ça évolue un peu le vélo? On sait qu'il y a certains sports qui attirent pendant un grand nombre d'années. On ne sait pas pourquoi. Tout d'un coup, ça attire moins les jeunes. Vous, ça marche toujours autant ou il y a une évolution
Ben non, comme dans tous les sports. Hein, je pense que quand on arrive à l'adolescence, ça devient assez compliqué. Et le vélo, je ne dis pas ça parce que maintenant je fais du vélo. Avant, j'étais dans le sport co. Mais c'est vrai que c'est quand même assez difficile. Et c'est vrai que ben, les samedis soirs, il ne faut pas sortir hein, si on veut faire du vélo et marcher le lendemain. Donc, c'est vraiment compliqué. Ouais.
Vous avez autant de garçons que de filles. C'est un sport quand même qui est féminin ou pas du tout?
Alors, en Lozère, il y a quelques féminines. Et on peut le voir avec notamment de nombreuses féminines qui se mettent à la route, qui ont créé une association, Lozelle, etc., qu'on a vu à l'occasion du Tour cycliste féminin international de l'Ardèche. Donc je les ai vus encore hier sur le trail de Nossac. Hein. Bon, pour ne pas les citer, Elsa Lombard, Eliane Bugeaud-Delfaux, etc. Il y a un bon engouement et on espère que ces féminines lozériennes pourront perdurer.
C'est quoi un vétathlon?
Alors vétathlon, c'est on associe à la fois course à pied et VTT. Voilà, donc c'est pas un duathlon. Le duathlon, c'est connu, c'est vélo de route et course à pied. Voilà, notamment essentiellement des triathlètes. Vétathlon, voilà, c'est course à pied VTT.
Justement, il y a des triathlètes qui viennent sur ce genre de compétition ou pas?
Alors, c'est toujours difficile de faire monter les gens du Sud. Hein. C'est vrai que, bon, voilà, en Lozère, ben, des triathlètes, il y en aura, puisque dimanche, on aura encore la chance d'avoir ben, Charlène Clavel, championne du monde dernièrement, avec son frère également. Donc, c'est vrai que. Après, c'est quand même assez particulier, parce que même si le circuit VTT est accessible, souvent, le pur triathlète, il n'est pas vététiste. Donc souvent, c'est un peu compliqué pour lui de monter sur le VTT, d'enfourcher le VTT. Mais bon, c'est un bon exercice pour eux en ces périodes hivernales. Quoi.
Combien de kilomètres à pied et à vélo ça donne?
Donc, depuis l'an dernier, de façon à ce que ça soit un peu plus spectaculaire, on a raccourci le circuit à pied de façon à ce que les enchaînements puissent se faire beaucoup plus rapidement. Et en gros, pour ceux qui le font individuellement, ça représente 10 km à pied et 20 km de VTT qui peuvent se faire individuellement ou par équipe.
C'est parfait pour toi, Saint-Laurent.
Oui, tout à fait, mais bon, il me faut encore quelques jours pour peaufiner ça. Il y aura des favoris, alors hormis Charlène, qui j'imagine fait partie des favoris, deux. Est-ce qu'on peut citer d'autres personnes, des locaux?
Oui, eh ben hier justement, je lui ai demandé. Il y a Maxime Rajon hein, qui a gagné hier à Langogne, qui vient individuellement. Voilà, on le retrouve en forme. Hein, deuxième le week-end dernier à Roufia, qu'il a gagné hier sur le trail de Langogne. On le sait bien sûr, vainqueur de la manche de Coupe du Monde avec ses amis Benjamin Monnier et Nicolas Rambier. Donc eux en individuel et ensuite en équipe, je mettrai une pièce sur Sébastien Bugeaud et avec Sébastien Coudert du Man de Run and Bike.
Si Sébastien Coudert ne sort pas samedi soir, c'est ce que tu disais tout à l'heure.
Ah ben alors là, après, on le verra vite, alors, on le verra vite dimanche matin. Ouais.
On le saura vite.
Le départ est donné d'où? C'est quoi à peu près la boucle que vous allez proposer?
Alors la boucle à pied fait 3,5 km, hein, que les coureurs à pied auront à faire trois fois. Et le circuit VTT, donc 10 km que les compétiteurs feront deux fois. Et départ arrivé au parcours à Croix-Branche Mimat Aventure.
Est-ce qu'ils connaissent déjà le parcours ou c'est vraiment la surprise dimanche matin?
Ah non, alors le parcours, vous pouvez aller le voir, il est comme on dit, il est poncé, c'est-à-dire depuis déjà de nombreuses semaines, les coureurs, notamment Mandois, le repère, hein, ils le connaissent par cœur.
Okay. Ils regardent par où ils peuvent couper
Pas non. Couper, mais voilà, ils connaissent le moindre caillou et pas couper. Il n'y a pas de tricheur en Lozère.
Il n'y a pas de triche, je ne sais pas. Hein, je pose la question. Patrick, tu as dû le suivre, ce Vétathlon. Ça fait combien de temps qu'il existe?
Donc là, c'est la 11e édition.
11e édition. Voilà. Tu as déjà couvert pour la Lozère Nouvelle?
Non, j'y suis jamais allé, mais c'est vrai que.
Eh ben alors.
Ben, Jean-Luc, en tout cas, moi, ce que je peux témoigner, c'est que il est au micro et il fait vivre cette course, et pas que celle-là. Il y avait le cyclo-cross il y a pas si longtemps. Mm-hmm. Là, c'était au chapitre, autour du stade. En même temps, il y avait le match de rugby. Et donc, on pouvait entendre ses commentaires toujours aussi enflammés. Et donc, il fait vivre cette course, même quand tu vois pas les coureurs. Puisqu'ils sont dans des endroits du circuit où tu n'es pas positionné toi, eh ben tu sais quasiment ce qui se passe en direct live, et donc c'est un spectacle aussi quasiment à lui tout seul, mais de l'écouter avec sa passion et la façon dont il fait vivre la course, et donc ben n'hésitez pas à y aller, parce que c'est vrai que ben ça ajoute quelque chose de spécial, et c'est très intéressant à vivre. Nous ben je me souviens que nous étions les tribunes au rugby, et ben on écoutait ça, et tout en suivant le match de rugby on savait quasiment qui c'est qui était en tête et qui sait qu'elle allait gagner dans les différentes catégories.
Est-ce qu'il y a des endroits pour se placer, des endroits préférentiels durant le parcours pour les spectateurs ?
Alors, l'endroit un peu le plus technique, c'est sous les aires de jeu au niveau du COS. Là, il y a une cuvette, voilà, avec quelques racines, voilà, selon la météo. C'est l'endroit un peu plus technique.
L'aire de jeu de l'aérodrome ?
Non, l'aire de jeu au niveau
de
l'acrobranche.
Quand voilà, tu pars vers le Mont-Lima.
Ouais, voilà, en dessous de la croix. Maintenant, on a quand même fait un circuit...
Par Contente, tu veux dire ?
Oui, voilà. Oui, voilà, par là. Donc là, on a quand même fait un endroit... Enfin, nous, les circuits sont quand même accessibles de façon à essayer. Même on a des couples qui participent, mari et femme. On a aussi des courses enfants. Donc vraiment, c'est avant tout une fête familiale. C'est pas un circuit typé VTT pour les puristes.
Il y a combien de coureurs ce dimanche qui sont prévus ?
Ben, pour l'instant, pas de préinscrits. C'est vrai qu'en général, voilà, ça s'inscrit sur place à partir de 8h du matin. Donc les premiers départs à 9h et ensuite les courses enfants qui s'enchaîneront dans la foulée.
D'accord. Bon, mais super. Patrick le disait, une manifestation il n'y a pas longtemps, celle-là maintenant. Vous avez un programme établi pour l'année d'animation ? On fait un peu au...
Ben après, Vélo Club Andelozère, ça, le gros de l'activité, c'est effectivement, voilà, en début d'année, le cyclo-cross et le vétathlon. Après, il y a des projets, hein. Bon, Patrick pourrait aussi les citer. On est quand même aussi associé avec Benoît Malaval, bon, sur de nombreuses compétitions, hein, départementales également, avec le comité départemental. Donc, pas mal d'activités. On a de nombreux coureurs. Ce week-end, on aura David Julien, hein, troisième au championnat de France, qui sera sur le championnat de France VTT Marathon, avec Axel Roudil Cortina. Donc, tout au long de la saison, avec le team Vélo Club Andelozère également. Donc, pas mal d'activités. De course, de jour de course.
David Julien, pas Laurent Julien.
David Julien, voilà.
C'est pas le même.
Non.
Ouais. Ok, mais c'est super. Si on
veut. Avec Lassard, par contre.
Voilà. Ah bon.
Il y en a un qui a plus la santé que l'autre.
Eh ben ouais, on se dira pas qui.
Voilà, toutes les informations sur notre site, Vélo Club Andelozère.
Voilà, si on veut vous rejoindre encore pour inscrire son enfant ou quoi que ce soit, c'est possible.
Il n'y a pas de souci. Rendez-vous
dimanche matin. Ils sont très actifs sur les réseaux sociaux aussi.
Merci.
Voilà, sur Facebook. C'est toi qui.
Non, pas du tout.
Enfin, c'est tout David et Christophe. Ok.
Voilà.
Non, mais il faut souligner le dynamisme du cyclisme lausérien.
Ah, ben oui. Bon,
là,
oui.
Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Jean-Luc, bon, c'est le VCML, mais il y a d'autres clubs un peu partout, pas qu'à Mende, dans d'autres, bien sûr, villes lausériennes, où il y a aussi des licenciés, du loisir, de la compétition, et puis des résultats. Et c'est vrai que les couleurs lausériennes. Aussi bien en VTT qu'en route, un peu dans toutes les spécialités, la descente aussi.
Matteo Iniguez, c'est
exactement.
Vrai que voilà. Donc
on a quand même, on est en pointe, notre département, petit département au niveau population. C'est vrai que dans tous les secteurs du cyclisme, organisation, course, loisirs, on tire notre épingle du jeu. Et bon, chapeau à tous ces bénévoles. Et bon, tu l'as cité, à Benoît Valarié, qui est le président du comité départemental, qui a lancé les 100 miles. Ça fait la deuxième édition qui était cette année. Donc, chapeau à vous de faire vivre cette discipline sur notre département.
Puis la formation a l'air d'être bonne aussi, puisqu'il y a quand même pas mal de jeunes qui font des podiums dans leur catégorie d'âge. Donc bravo à tous ces jeunes cyclistes et qui continuent ainsi pour les années suivantes. Quoi.
Ah merci, oui, c'est vrai que l'ensemble des clubs, comme vous le dites, travaille voilà, avec les nombreux bénévoles, mais ça c'est pur à la Lozère, pas qu'en Lozère, mais les bénévoles dans toutes les disciplines sportives, c'est vrai qu'on peut leur tirer notre chapeau.
Mais merci beaucoup d'être venu. C'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup parlé de vélo avec Benoît Malaval, bien sûr, assez souvent.
Et pourtant, il y a des auditeurs qui nous le réclament.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a invité Jean-Luc, parce que c'est important d'en parler. Tu as laissé des choses dans la salle de rédaction ou pas du tout? Allez, mais parfait. Allez, merci
salut,
à toi.
À bientôt.
Allez, on va...
À dimanche.
À dimanche, ouais. Tu t'inscris, Laurent, ou pas?
Écoute, je viendrai. Je viendrai.
Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a dit? Ah non, moi, je sers au bar des Toquets du Cep. Au concert à l'Espace des Anges. Ah, donc, je sers, je vais boire, je peux pas
c'est
le faire.
C'est une autre forme de vétatlon, ce que tu fais, toi.
Exactement, c'est ça. Surtout pour rentrer après. Alors, on va parler de quoi maintenant? Tiens, du rugby, ah oui, du rugby, évidemment. 66-0.
D'ailleurs, Jean-Luc Urban aurait très bien pu parler de rugby, puisque juste avant l'émission, je lui demandais savoir à quel niveau il avait évolué. Et bon, ça a été un très bon, un excellent joueur de rugby dans ses jeunes années.
Mmh. Oui, hier, il n'était pas là, mais ils n'avaient pas besoin de lui, parce qu'ils en ont mis 66. Ils n'ont pris aucun victoire facile du RCML contre... Cabestany, Julien, tu y étais, Laurent, tu y étais. Alors sur ce match, qui veut m'en parler?
Julien, plutôt. Moi, j'ai vu que les 10 dernières minutes. Alors,
moi, j'ai vu que la deuxième mi-temps.
Bon, en fait.
Alors, la première mi-temps, on va pas en parler. Il y avait combien quand on est arrivé?
Il y avait 31-0 à la mi-temps.
D'accord. Donc, ça devait être à peu
près. C'était déjà
préparé.
Un peu plié.
Ouais, ça devait être à peu près pareil la seconde. Parce
Cabestany ne connaît pas la partie du terrain adverse. Ah. Ils sont beaucoup restés dans leur camp. Ouais. Ça a été compliqué, mais bon, il n'y a pas eu match, quoi. Il suffit de voir le score.
Oui,
pas
c'est
d'être
sûr.
Spécialiste rugby.
Oui, alors cependant, il n'y a pas eu match, mais j'ai trouvé, bon, alors j'ai vu que les 10 dernières minutes, certes, mais je les ai trouvés très sérieux, l'équipe mandoise, parce que des fois, quand le score, moi, je vois, on est tous des fouteux autour de la table, quand le score est acquis, des fois, après, ça devient un petit peu moins fluide. Là, j'ai trouvé vraiment qu'ils étaient très sérieux, et donc les 10 dernières minutes, j'ai pu voir deux essais. Mais surtout deux très beaux essais où l'équipe a cherché à faire des beaux décalages sur les côtés et ça finit dans la butte et j'ai bien aimé. Voilà, franchement.
Mais pas que
le peu que j'ai vu.
Moi je fais l'ultra trail.
Ouais.
Je te promets. Hein. Mais riez pas.
Non, on rigole pas du tout.
On rigole pas.
Merci.
Le sport que tu fais, c'est des marathons.
C'est le seul gars qui fait de l'ultra trail, c'est un basket quoi. Parce que...
Je te promets. Je cours 5 km toutes les semaines.
Non, et alors du coup, ouais, bon, mais l'équipe qui est restée sur deux défaites.
Ça soigne la différence aussi.
Soigne la différence, c'est bien fait.
Ouais.
Mais surtout au niveau du moral quoi. Parce que.
Patrick va nous dire un mot sur cette équipe de Cabestany.
Oui, comme le dit Laurent, d'abord, le RCML, il fallait que pour un club qui est quand même joué en honneur l'année dernière, qui est relégué, quand tu commences ton championnat par deux défaites, dont une assez sévère à l'extérieur le dimanche précédent contre Florida, donc, où tu as pris 35 points. Le premier match à domicile, tu as perdu sur le fil un match que tu aurais dû gagner. Mais bon, n'empêche que tu étais fanny, bon, hormis un point de bonus défensif contre Plage d'Orbe, le premier match à domicile. Donc, il fallait absolument enclencher la mécanique à victoire. Et donc, Cabestany, c'est pour ça qu'il faut un peu relativiser quand même cette large victoire. Un club en souffrance, puisque le premier match de championnat, forfait. Donc, il s'était pas déplacé, alors je sais plus contre qui c'était, donc ça fait 25-0 contre toi. Un deuxième match qui avait été reporté pour cause des intempéries, donc c'était en fait leur premier véritable match de la saison. Donc 66-0, la saison va être longue.
T'as pas envie d'y retourner
pour cette équipe,
après un match comme ça,
hein. Pour cette équipe de Cabestany, je pense que la saison va être vraiment compliquée.
Ils sont pas montés à beaucoup hier. Hein.
Voilà.
Ah ouais?
Ouais. Je crois qu'ils avaient, je sais pas s'ils avaient pas juste deux remplaçants ou un truc comme ça.
Donc c'est vrai que ça.
Il y en a un qui s'est blessé en plus, qui est sorti très vite au tout début de la deuxième mi-temps. Là, ça faisait deux minutes que ça jouait, il est sorti direct.
Ça me rappelle quelque chose.
ça rappelle les heures un peu sombres, mais qu'a connu le RCML il y a 2-3 saisons où tu te déplaçais à 17-18 joueurs. Donc, quand tu joues au rugby et quand tu te déplaces à 17-18 joueurs, je peux te dire que. Il faut serrer les fesses, hein, parce que c'est vraiment compliqué de faire un bon résultat.
Et c'est pas facile de jouer en serrant les fesses.
Ouais.
Pas faire de le dire.
Laurent, tu me disais en off, en plus de ça, qu'avant l'émission, que tu avais vu deux jolis essais sur la fin du match et qu'en plus de la victoire 66-0, tu avais vu des belles choses sur le dernier quart d'heure où tu étais là. C'est plaisant d'avoir joué.
Ouais, c'était plutôt agréable. Et puis bon, c'est vrai que Patrick dit qu'il y a des soucis dans cette équipe adverse. Mais enfin, quand t'es sur le terrain, ils prennent des shoots. Enfin, c'est pareil. Hein.
Ouais, non, mais
certes, l'équipe était peut-être moins huilée en face, Mais quoi qu'il en soit, ils y étaient et ils mettaient pas non plus. Après, ils n'ont pas laissé passer le moment droit, je veux dire.
Niveau effectif, ce qui est bien, c'est qu'en plus, ils ont pu faire une équipe 2 cette année. Je pense que niveau effectif, où ils étaient un peu juste les années d'avant, ça peut leur apporter. J'ai appris aussi qu'il y a eu 4 ou 5 signatures récemment. Là. Après, ouais. C'est pas forcément c'est des nouveaux, donc pour s'intégrer, ça va être un peu plus compliqué. Mais bon, après, voilà. Quoi.
Je pense que c'est toujours. Je crois qu'au niveau du rugby, pour l'intégration, ils sont plutôt pas mal.
Mais il y avait quelques retours là, sur ce match de Cavestani par rapport justement au premier match contre Plage d'Orbe. Bon, des joueurs expérimentés, donc qui apportent vraiment, en particulier au niveau du pack. Donc c'est vrai que là aussi. Il y avait des éléments expérimentés plus que pour le premier match.
La 2 demande, elle est en...
Tu joues à 10.
Tu joues à 10.
Voilà. Le premier match contre Plage d'Orbe, c'était à 10. Et tu joues comme au basket. Ouais, 4
le
fois
terrain 10, est très, très grand.
4 fois 10 minutes. Tu joues 4 fois 10 minutes comme au basket.
C'est quoi comme championnat?
C'est le championnat des réserves.
C'est pareil. D'accord. Ouais. C'est un championnat équipes. De réserves. Ouais, c'est voilà. Les mêmes équipes.
Ouais. Alors, mais il y a certaines équipes qui n'ont
si pas,
pas
de réserve.
Qui n'ont pas de réserve.
Hier, Cavestani, ils n'ont pas de réserve. Donc, Mende était exempt. Du coup.
Voilà.
Ah mais tu m'étonnes s'ils viennent qu'à deux de plus, qu'ils n'aient pas de réserve.
Après, ouais, c'est un club qui vit bien. Donc, pour avoir parlé avec Paul Jaou, le demi de mêlée, là, il me disait que cette année, ils étaient repartis sur des bonnes bases avec pas mal de nouveaux et que c'était intéressant.
Très, très, très
c'était,
bon.
Ouais. L'excellent demi de mêlée.
Très, très bon. Il était très bon samedi soir aussi. Ouais. Vous pouvez passer le bonjour.
En rugby, t'as le droit la veille. Ouais. D'accord. Ah, intéressant ça.
C'est même recommandé pour faire un bon match.
On a des nouvelles de Loïs Morisson, savoir s'il a signé dans un club, est-ce qu'il joue.
Il avait fait, je me souviens plus le nom de son club, mais c'est vers,
c'est pas très grave,
vers les Landes, là, vers Mont-de-Marsan. Et donc il avait déjà fait les phases finales la saison dernière avec son nouveau club. Et donc là, il a posé sa candidature pour être cadre technique de la fédération. Et donc, je sais pas si ça a réussi ou pas, mais peut-être qu'il a intégré ou qu'il va intégrer. Les cartes techniques de la Fédé.
Ok, bon, on suivra ça. On lui demandera qu'il nous
écrive. Il va falloir faire quelques formations avant de pouvoir intégrer.
Voilà, ce qu'il avait accompli d'ailleurs pendant ces années mandoises. Certains diplômes, il les avait validés ici à Mende.
Handball, c'était le match attendu en Coupe de France où les féminines du Handball Nord-Lozère recevaient celles du Mende-Gévaudan Club Handball. Eh bien, il n'y a pas vraiment eu de match. Victoire du Handball Nord-Lozère 22-16 pour les féminines. On parlera des masculins des deux clubs après. 22-16, Laurent, dis-nous, qu'est-ce que tu as entendu sur ce match?
J'ai entendu, comme vous tous, sûrement sur les réseaux sociaux, qu'il n'y a pas eu de match, en fait. L'équipe.
Un quart d'heure.
Même pas. L'équipe Nord-Lozère a rapidement pris l'avantage. Et c'était très compliqué pour les Mendoises de marquer ne serait-ce qu'un but. Donc voilà.
Il y a eu une petite remontée en seconde mi-temps.
À la mi-temps, le score était acquis. Et voilà, il n'y a pas eu de miracle l'écart, pour les Mendoises en deuxième mi-temps.
L'écart était physique ou collectif?
C'est une victoire collective. Quand on regarde le nombre de buts marqués par les joueuses du Nord-Lozère, il n'y en a pas une qui sort du lot spécialement. Hein. Donc il y a deux joueuses à 4 buts.
Le goal a été très bon.
La gardienne. Qui jouait son premier match de gardienne officielle du Nord-Lozère a fait ses arrêts quand il fallait au bon moment. Et donc voilà, donc bon. On ne peut pas dire qu'il y a eu un gros match.
Ouais, Nico. Une équipe du HBNL aussi peut-être plus expérimentée que le MGC qui est beaucoup plus jeune.
C'est vrai que quand on regarde les photos, le c'est jeune du côté mandois.
Il y a 4 joueuses de 17 ans, quelques anciennes, mais quand on dit anciennes, en fait, elles ont 22 ans.
C'est ça.
Donc, bon, voilà, c'est sûr qu'il manque un peu des années, mais ça excuse pas tout, parce que je crois que côté Nord-Lozère, hormis les deux joueuses ex-mandoises, les autres sont très jeunes aussi. Donc, voilà.
D'accord.
C'est pas une raison.
Patrick, sur ce match, les retours que tu as pu entendre?
Oui, c'est vrai qu'il y avait 5-3 au bout d'un quart d'heure, donc c'était assez équilibré jusque-là. Puis après, il y a eu le dernier quart d'heure avant la mi-temps qui a été totalement à l'avantage du HBNL. Et en deuxième mi-temps, l'écart est monté à plus 10, plus 11. Ça a même failli être une boucherie. Heureusement qu'il y a eu une petite réaction sur la fin des Mendoises pour revenir à un écart quand même plus raisonnable, parce que sinon, ça aurait pu finir même à 15 buts d'écart. Ce qui quand même aurait été totalement... personne n'aurait pu prévoir un tel écart avant le début du match.
Donc 5 à la mi-temps. 12-5 à la mi-temps.
12-5, donc c'est vrai que 5 buts en 30 minutes, ça fait vraiment très peu, forcément.
Pas beaucoup. Hein.
Donc, je sais pas, peut-être que les Mandoises se sont fixés l'objectif de ces play-offs pour la N3, le championnat, un dépassement à Saint-Chély. Je sais pas, à voir. En tout cas, on aura réponse très rapidement ce week-end, puisque les deux équipes réenclenchent sur le championnat avec des matchs à domicile. Donc on verra qui aura bien digéré cette confrontation lausérienne.
Oui, exactement. Tu as les matchs en tête là de ce week-end ?
Oui,
on l'annonce ton
collier. Le HBNL, il joue à 20h à Saint-Alban contre
Monteil. L'US Monteil.
Voilà, c'est ça.
L'US Monteil, merci.
Et le MGC, les filles jouent à 20h30. Alors attention, c'est inversé. En principe, c'était toujours les filles qui étaient enlevées dans les dos par rapport aux garçons. Et donc là, cette année, alors je sais pas si c'est que pour ce match ou si ça va se reproduire dans la saison. Mais les garçons jouent à 18h30 contre Narbonne. En pré-national, et à 20h30, les filles reçoivent Clermont Salagou, qui a fait deux victoires en deux matchs, je crois. Donc, énorme match pour les filles du MGC à domicile.
Donc, Bal Nord-Lozère, elles reçoivent qui, tu sais, tu l'as en tête
Julien.
Ah oui, c'est Monteil, Nord-Lozère. Ok, à Saint-Chély ?
Non, à Saint-Alban.
À Saint-Alban, cette fois-ci. Ok, très bien. Les garçons du MGC également éliminés après leur défaite 36-35 au Puy. Et les garçons du Handball Nord-Lozère.
De France, on ne verra pas, man, cette
année. Voilà. Et les garçons du Handball Nord-Lozère qui ont gagné, eux, 36-21 à NRJ.
Les garçons du MGC ont raté leur dernière minute puisqu'ils avaient un but d'avance à 1 minute 30. Et puis donc, ils se sont fait doubler dans les dernières secondes sur le gong par cette équipe du Puy.
C'est le même niveau, le Puy ?
Je crois que c'était une division en dessous.
Je sais pas du tout, j'ai pas suivi.
C'est bizarre.
T'as remarqué que c'est pas toi qui se pose la question.
Oui, c'est vrai, tu as raison. Football, qualification, Coupe de France aussi, également football. Mais avant, on va faire une pause musicale. Tiens, bim. Voilà. On va parler des qualifications. 2 clubs sur 3 qui se sont qualifiés. Lesquels ?
Teasing.
On ne sait pas, on va voir.
Allez.
I made and spite really brought the mood down. Show me income based on the reprieving. I'll tell you why life has no meaning. Revokes the sin she spoke. She likes bestowed, but she'll just have to wear what she can find now. Now a bomb, a daughter gone, a brother lost at the cost of who remains. Comes down to who pays the highest price, not the sucker. Show me torment that's met with treason. What was a boy, his buddy quelled. He ran from hell for help, but got told he ain't got the right papers. What is this, a home or hell? A plot of grass, a private cell? Can you not tell that the riot spell is total? It won't last.
Allez, on est de retour, on vous le disait, trois clubs en Coupe de France de football qualifiés pour ce nouveau tour. Eh bien, deux qualifiés, un éliminé. Victoire, première victoire pour l'Avenir Foot Lozère, qui se qualifie pour le cinquième tour de Coupe de France. 4-1 sur le terrain du FC Langlade. Langlade, pas en Lozère, hein, contrairement à ce que certains disent sur les réseaux sociaux. Doublé de Bourguet avec deux autres buts de Coupin et de Fall. Victoire et qualification également pour l'Antoine Nord-Lozère face à Murat. 4 buts à 1 et défaite et élimination de Langogne 3-0 contre Bourg-Argentel. On va commencer par l'FL, messieurs. Logique respectée.
Ouais.
Vas-y, Julien.
Non, mais pas grand-chose à dire. De ce que je sais, c'est que la première mi-temps, Langlade s'est un peu accroché, a joué un vrai match de coupe. Et je pense qu'à force, le niveau a fini par parler. En deuxième mi-temps, Langlade a lâché petit à petit. Puis voilà, 4-1, c'est bien parce que... Il y avait déjà eu la victoire au tour précédent, 7-0. Là, 4-1, ça fait des scores quand même qui sont sérieux.
Et ça permet... fait deal.
Ouais, et ça permet de bien préparer le championnat la semaine prochaine.
Ouais, avec une victoire en championnat entre les deux.
Ouais, voilà, ouais, c'est pas
donc,
mal.
Donc, bonne dynamique actuellement.
Surtout que là, samedi soir, ils vont à Bagnolpont. Donc là, par contre, ce sera pas un match évident. Donc, c'était bien de le préparer avec une victoire.
Mm.
Dis-moi les poules là qui parce que c'est par poule la Coupe de France.
Oh, ouais, ils font des secteurs géographiques.
Quand est-ce qu'ils refont les pontes de ces poules là? Ça sera toujours la même poule là en prochain tirage ou pas?
Ben à voir là. Le tirage il est jeudi soir à Montpellier, mais normalement ça reste encore un peu par secteur géographique. Ah,
hein. Vous voyez où je veux en venir. Il y a un certain OAC dans la poule. Alès, je sais même.
Ils ont eu chaud hier.
Ah oui.
Ouais, ils ont gagné 4-2 à Petit Bourg et en R3, mais
le match a été arrêté plusieurs fois, des jeux de cailloux, un peu de tout quoi.
Ouais, non, mais par contre, ça m'a un peu surpris parce que nous l'an dernier, Petit Bourg, on les avait dans la poule avec la réserve de l'AFL et franchement, ça avait été royal quoi.
Ouais, mais ça vient de.
On avait été. Ouais, mais il y avait un peu des gens l'an dernier autour du stade, tout ça et. C'est super ambiance. Après le match, on avait été très bien reçus. Donc
des histoires, hein, Alès. Ouais,
peut-être, mais bon. Peut-être parce qu'autour d'avant...
C'est le folklore, quoi.
Autour d'avant, Alès avait aussi un peu eu son match arrêté à Nîmes-Chemin-Bas, pareil, avec tentative d'invasion du terrain, tout ça. Donc, après, c'est des matchs...
Ouh, fait du foot, quoi.
C'est Stéphane. C'est Sora, il est repéré quand il se déplace.
Voilà, voilà. La galère. Ok. Patrick, tu voulais dire un mot ou on passe à l'ENL?
Non, c'est vrai, logique respectée. On espère revivre de grandes émotions en Coupe de France. Cinquième tour, on se met déjà un peu à rêver. Il faudrait un tirage un peu tranquillou, là. Encore
mais contre l'ENL, ce serait bien qu'ils mélangent les poules.
Non, non, c'est possible.
Pas possible.
On ne veut pas jouer contre d'autres joueurs.
Parce que là, c'est vraiment...
Pourquoi?
Parce qu'automatiquement,
il y aura un éliminé.
Il faut arriver au 7e tour.
Et alors?
Ben non, arriver au 7e tour. De toute façon, c'est pas possible parce qu'ils sont dans une autre ligue.
Oui, voilà, déjà, ça on est d'accord.
Mais il faut que tu arrives au 7e tour. Au 7e tour pour que les
lignes passent chacun de leur côté plutôt qu'ils jouent l'un contre l'autre, non?
Mais oui, non, mais ça fait un beau match. Ça fait une belle fête qui tombe l'un contre l'autre.
Non, pas de suite.
Hein? À Saint-Chély, là.
Ça sera mieux en 16e de finale.
D'accord. J'en suis pas sûr, mais bon.
Ou à finale, soyons.
Par rapport à la FL, ça reste quand même, comme disait Julien, un score sérieux. Puis quand on est une équipe qui descend d'un échelon, qui change l'effectif en grosse partie, voilà, ça peut être souvent des matchs pièges, voilà, à l'extérieur, c'est un match donc bien négocié, donc preuve que je pense que ça prend bien. Et puis à noter le bon début de saison de Corentin Bourguet, qui marque encore doublé hier, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Voilà, et qui en canne ses débuts de saison, voilà, un pur produit de la formation mandoise et qui s'est installé en équipe 1 depuis l'année dernière, j'ai envie de dire, et qui cette année fait partie des joueurs qui font un des meilleurs débuts de saison dans cet effectif mandois.
Et puis dans les bonnes nouvelles aussi, hier, Mika De Freitas qui s'était blessé à la prépa a joué. Il était titulaire.
C'est une bonne nouvelle.
Benjamin Almeras aussi est revenu, il était sur le banc, il est rentré en cours de match. Donc voilà, c'est aussi des retours importants parce que contre Frontignan, c'était Gorgui Fall qui avait joué derrière alors que c'est plutôt un numéro 6. Et Abou Diaby qui arrive aussi au club mais qui est un peu jeune. Donc je pense que les retours de Mika et Benji, ça va encadrer tout ça. Ça va permettre d'avoir un effectif aussi qui grossit en termes de quantité. Donc voilà, c'est des bonnes nouvelles.
Le NL aussi, bonne dynamique, hein. Encore une nouvelle victoire après le championnat.
Que des victoires.
Que des victoires, et là 4 buts à 1 contre Murat. Quelqu'un a les buteurs ?
En buteur, il y a eu Régis Brunel qui a mis 2 buts, il y a eu Bastien Rua qui a mis 1 but, et Sébastien Mallet qui a mis le dernier but. Après, ouais, il y a eu à peu près 400 supporters qui sont venus pour le match, donc c'est quelque chose de très bien pour le NL. Les années d'avant où ils avaient un peu de mal à ramener du monde au stade, là, cette année, ça commence plutôt
plus
bien.
À Saint-Chély ? Ça doit être l'embouteillage, n'empêche.
Non, c'est bien. Le stade est rempli. J'ai vu des photos, des vidéos. C'est non, super. C'est, hein. C'est la résurrection, Patrick.
C'était le jour que le match de Inde ?
C'était le dimanche à 14h30.
Oui, d'accord. Parce que comme c'est sur le même site.
Non, mais j'ai eu la chance, moi, en début de saison, d'aller à Saint-Chély pour interviewer le nouveau coach qui a pris les rênes de l'équipe à l'intersaison. Et bon, c'est vrai qu'il y avait quelques dirigeants, en particulier le président qui était présent aussi. Et moi, j'ai trouvé un discours vraiment cohérent avec de l'ambition, mais aussi beaucoup de lucidité sur ce que peut être le football en Lozère et en Nord-Lozère. Bon, le NL, c'est un club quand même, ça a été le premier à jouer au niveau national dans le football lozérien. Donc après, il y a eu des années beaucoup plus difficiles. Maintenant, tu te retrouves en R3, ce qui est bien sûr clairement pas la place d'un club comme Saint-Chély. Il faut bien sûr au moins être en R2, si ce n'est même en R1. Ils en sont conscients, donc petit à petit, ils essayent de reconstruire avec des jeunes, mais aussi des garçons plus expérimentés. Et puis c'est bien qu'on sent quand même que Saint-Chély, c'est une terre de football. Hein, Tom l'a dit, 400 personnes, c'est pas mal, donc il faut continuer.
Ouais, ces anciens là, je pense à Jean-Christophe Rousset avec qui j'ai joué moi à Saint-Chély, qui est resté. Ça, c'était des personnes importantes au sein du club. Il y a Franck Malhart qui est revenu, qui avait joué il y a quelques années.
Il est suspendu ce week-end déjà, Franck.
Ouais, Franck, bon, il est.
C'est bien ça. Tom, il y a Mathieu Gay qui.
Qui était capitaine du coup, qui a pris le brassard à la place de Franck Malhart ce week-end. Et Franck, ouais, quand même, c'est quand même une grande pointure au niveau nord-lozérien, qui était quand même l'an dernier à Saint-Flour, qui a fait la montée pour monter à N3. Et qui après, pour des raisons familiales et sportives, qui a décidé de rejoindre le NL. Donc c'est quand même un renfort de taille.
Manque plus que Vivien Fontune et c'est bon quoi.
Mais c'est un flour, non Fontune.
Non,
il a arrêté.
Il a course à pied.
Ah d'accord, ok.
Ouais, j'en profite pour prolonger ce qu'a dit un peu Tom. Voilà, Mathieu Gay, un bon collègue avec qui j'étais en formation. Ça fait plaisir de le voir sur les vidéos et capitaine de cette équipe qui avait un peu mis le football entre parenthèses, sinon des sélections en équipe de France de foot entreprise, ce qui est pas rien quand même, et qui avait appris cette voie-là par rapport à sa situation personnelle, professionnelle, mais voilà, était un mordu de football, il n'avait pas voulu arrêter, et donc qui avait fait un beau parcours en foot entreprise et avec des sélections, il me semble, et là qui est revenu cette année à l'ENL, et ça fait plaisir de le voir jouer, de porter le brassard de cette équipe, et parce que ça a été quand même un joueur phare de cette équipe pendant quelques années, donc voilà.
Équipe de France, je savais pas, de foot d'entreprise. Il n'y a pas l'équipe de France de foot d'association ?
C'est du corpo, ils appellent ça.
C'est le corpo,
c'était sur Clermont qui jouait.
Football m'intéresse pas.
Ouais. Après, ouais, pour y revenir à l'ENL, ça fait au moins 4 ans qu'ils n'étaient pas arrivés à ce tour-là. Je me rappelle, j'y étais. On avait joué contre Le Puy, c'était il y a 4 ans. Et depuis, je crois qu'ils avaient fait des parcours assez courts. Donc c'est bien pour eux.
Ouais. Alors par contre, Langogne défaite 3-0 contre Bourg-Argentel. Argentel qui évolue en
D2.
En D2. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là ? Tiens, Nico,
toi qui as...
C'est vrai que c'est Nico le spécialiste de Langogne.
Trois divisions d'écart. trois divisions d'écart en faveur de Langogne. Et pourtant,
il va nous dire, Nico.
C'est la surprise. Donc, un but par division, quoi.
Un match, comme dit Patrick, un match de Coupe de France avec 0-0 à la mi-temps, des Langonais assez bien en place, qui ne livrent pas une prestation exceptionnelle, mais qui rentrent à la mi-temps 0-0, deux buts deuxième mi-temps à l'image de la première, et puis dès qu'ils ont pris ce premier but, là, aux alentours de la 60e, je dirais, quelque chose comme ça, ça leur a coupé les jambes, quoi, ils sont complètement écroulés, ils ont pris deux autres buts en 5 minutes, pas longtemps après. Donc voilà, Langogne qui a toujours un peu de mal avec la Coupe de France. Je me souviens en étant joueur.
C'était déjà passé à l'arrache au tour précédent.
Voilà, mais je me rappelle les années d'avant. Là, moi, les années où je jouais à Langogne, on se faisait pareil taper sur les premiers tours par des équipes de 2-3 divisions en dessous. Alors voilà, Langogne s'est dépassé. Peut-être à domicile, ça aurait été différent, mais. Voilà, ça a été un match compliqué. Une fois qu'ils ont pris ce but, je pense pas que c'est leur priorité. Leur priorité, c'est voilà, de se maintenir dans cette ER2 et j'espère qu'ils réussiront à rebondir après ça pour repartir de plus belle en championnat. Cette
fois, priorité ou pas, ça doit être très frustrant pour
oui,
tous les joueurs.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, mais voilà, ce qu'il faut voir aussi avec des clubs comme Langogne pourrait avoir été aussi. Peut-être que voilà, il y a un effectif. Un peu limité, même s'il y a deux équipes en termes de niveau, il n'y a pas un gros groupe capable de jouer en R2. Il y a des joueurs de qualité, mais le groupe n'a pas une profondeur énorme. Dès que tu commences à faire tourner et à les piocher, peut-être un peu plus en réserve, qui sont plus soit des profils de très jeunes joueurs, soit des profils de joueurs qui aspirent à jouer en vétéran dans les années suivantes, etc. Enfin voilà, après, si tu commences à faire tourner, c'est pas un club comme Mende qui peut se permettre d'aller piocher des joueurs du niveau de Julien Gall en réserve pour alimenter l'équipe première, quoi. Non, mais blague à part, voilà, quand on voit l'équipe 2 qui allait jouer de FL, qui allait jouer en Coupe Lozère aujourd'hui, ce week-end, et les joueurs qui sont restés au repos ce week-end, des clubs comme Langogne ne peuvent pas se permettre de faire ça, et dès qu'ils le font, l'équipe est sensiblement diminuée, donc il y a aussi ça à prendre en compte, quoi.
Bien sûr. Mais en parlant de la réserve de la FL, les R2 sont allés s'imposer 5-1 sur la pelouse du Malzieu en Coupe Lozère. On va parler un peu plus de Coupe Lozère.
Il y avait d'autres matchs en Coupe Lozère, du
coup ? Oui, il y avait d'autres matchs. Tom, tiens, c'est notre spécialiste Coupe Lozère maintenant.
On a joué Moroda contre l'association Génération Foot Mandois.
D'accord.
On a gagné 6-2.
Première victoire de la saison.
Première victoire de la saison et depuis de très longs mois, parce qu'avant la finale de Coupe Lozère l'an dernier, on avait déjà perdu 2 ou 3 matchs avant, donc ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas gagné, ça fait du bien au moral. Ouais.
C'est bien ça, tous mes chroniqueurs y perdent. Tiens, en parlant de défaite, Nico, on va y aller vite, on va pas raconter.
Attends, mais il y avait d'autres matchs en Coupe Lozère.
Attends, mais juste, j'ai envie de parler de Nico, là, de défaite. Non, d'accord.
On peut citer Chanac qui a battu Chirac 4-1.
Un petit derby, ça.
Oui, ça a dû être un
derby du Lot.
Un derby du Lot.
Mais alors,
après, je sais plus qu'est-ce qu'il y a
eu. Un Coupe Lozère, peut-être, mais il y a eu un Valdo.
C'était un Coupe Occitanie.
Voilà, un Coupe Occitanie, un Valdo football sous Lozère assez éruptif.
Ah, j'ai pas su.
Voilà, avec un carton rouge de chaque côté, une prolongation et la qualification de FSL. Mais donc, il paraît que
ça a laissé des traces.
Voilà, ça a laissé des traces. Donc, il y a eu un derby là aussi, puisque du Valdonnaise à Florac.
Ouais, c'est pas loin.
Ouais, c'est pas si loin que ça. Et donc, il paraît que ça a été quand même assez folklorique.
Alors, les autres résultats, qu'est-ce que vous avez ?
Juste, c'est bien de voir que des clubs s'engagent dans cette coupe petit à petit. Avant, il y avait plus la FL qui le faisait.
C'est vrai.
Voilà. C'est bien que des clubs comme FSL, de Valdo.
On ne t'entend pas, il faut que tu tournes le micro.
Il disait que c'était bien, en gros.
D'accord.
Mais après, il y a des clubs qui s'y engagent, il y en a qui se sont retirés. Je pense à l'an dernier, il y avait Marvejol qui avait participé. Il y avait le Gévaudan Football Club aussi à Marvejol. Donc, c'est des clubs qui ne sont pas représentés. Après, je pense que je vois pas trop l'intérêt pour des clubs districts de s'engager dans ces coupes. Ça engrange des frais de participation, des déplacements. Donc, après.
Comme pour la Coupe de France.
Voilà.
J'aime tes précisions.
Des frais de carton, en l'occurrence, pour les deux clubs.
Tom a raison sur les frais et tout. Après, l'inscription à Coupe Occitanie, c'est 25 balles, quoi. Donc, voilà.
Mais
après,
un club comme
le Valdo qui a deux équipes seniors et qui a un effectif d'une 40-45 joueurs, c'est bien d'avoir des matchs pour faire participer tout le monde. C'est sûr que quand on est un club où on a 18-19 licenciés et que tous les week-ends il faut que tout le monde soit présent, si on peut s'éviter des matchs, à l'image de ce qu'on fait avec les filles aussi, nous on s'inscrit pas dans toutes les coupes parce que vu qu'on est limité en effectif, on ne va pas multiplier les matchs.
Alors du coup, c'était la Coupe Occitanie et de toute l'Occitanie, il a fallu que Florac tombe contre Valdonnès. Ou alors il y a un pré-cadrage, comment ça se passe,
je sais pas.
Il y a eu un pré-tirage au sort.
L'an dernier, il y avait eu Marve Jol GFC, donc à mon avis.
Ouais, ouais, d'accord, j'ai compris. Okay.
Boule chaude, boule froide.
C'est tout l'inverse de la Coupe de France, de ce qu'on avait dit, là, que ouais. Tous les clubs lozériens, là, les 12 ou 13 clubs lozériens qui étaient engagés, qui ont tous affronté des clubs gardois, alors que d'habitude, les premiers tours étaient lozériens.
Autre résultat en Coupe Lozère, Le Buisson bat Marve Jol 2-0.
Ouais. Aumont a gagné 4-1 à Grandrieu et Le Blémar a gagné 3-1 au Chastel.
Okay. Donc Le Buisson est encore en lice pour conserver son bien.
Ben ouais, c'est bien.
Et Monroda aussi, veut retourner en finale.
Et du coup, vu que Florac et Valdo se sont affrontés en Coupe Occitanie, ils jouent leur huitième de finale plus tard, le 13 octobre.
D'accord.
Mais Tom, il voulait jouer la Coupe d'Alu, il est déçu, il est déçu d'être passé finalement.
On va faire ce qu'on pourra.
Ouais. Oui. Finale, objectif final.
Ouais. Si on arrive à la finale, on la gagne.
Voilà, pour la gagner. Fois-ci. Ah oui. C'est bon, on a donné tous les résultats ou pas? On peut se marrer un petit coup ou pas? Allez, non, on va pas se marrer. Tiens, les U18 féminines qui font 2-0-0 sur un plateau à Salles-Curran, très positif d'après la coach Lolita Perret, avec des équipes qui semblaient au-dessus sur le papier, finalement qui repartent avec 2-0-0.
Mais surtout 0-0 contre Le Buisson, alors que c'était un peu la bête noire l'an dernier sur plusieurs plateaux. Le Buisson affrontait l'AFL et à chaque fois, Le Buisson battait l'AFL. Donc je pense que là maintenant, les filles, ça fait 3 ans pour la plupart qu'elles jouent ensemble. Ça fait 3 ans que cette équipe a été créée. Donc ça montre que déjà elles sont très sérieuses parce que le taux d'absence aux séances est faible, très très faible, voire nul pour certaines. Et du coup ça montre qu'il y a un progrès, que les filles sont contentes de jouer ensemble. Et là de faire match nul contre Le Buisson, c'est un petit marqueur de l'état de progrès des filles.
Mais c'est des moins 18 aussi au Buisson ?
En fait c'est un championnat qui est fait de U15 à U18 en fait. D'accord. Donc il peut y avoir des disparités d'âge en fonction des équipes.
Ah bah oui, entre 15 ans et 18 ans. Bah oui.
Mais bon, c'est bien aussi que ce soit fait pour que les filles ne jouent que entre elles, contre des filles. Et ça reste quand même dans l'idée une très bonne chose. Et voilà.
Pour rebondir sur ce que disait Julien, 2-0-0, ça peut paraître comme ça anodin, mais contre des équipes, notamment Le Buisson, où il y avait peut-être il y a un an ou deux, une classe d'écart, et on voit que les filles ont rattrapé ce niveau-là, et ça prévoit de bonnes choses pour la suite au niveau du foot féminin, sachant que l'effet Coupe du Monde étant passé par là, Lolita a quand même des séances avec 18, 19, 20 joueuses pour une section féminine jeune à Mende, c'est pas rien quoi.
Ça marche les féminines. Tu es descendu à combien à Nîmes ce week-end?
Sans transition. Mais ce week-end, on est descendu à 12.
Il va récupérer les U18.
On va récupérer les U18, c'est prévu, petit à petit.
Il
n'y
en a pas.
Voilà.
Il n'y a pas de U18. Je crois qu'il n'y a que des U17.
Mais des U17, alors, ouais. Double
sur 4 semaines. Des U15, il va tout récupérer, t'inquiète. Les mères des joueurs.
Pas de U18. Mais du coup, pour faire vite, on est descendu à 12 filles qui ont bien voulu se déplacer et que je félicite. Vous comprendrez ce que je pense des autres filles qui ne veulent pas faire les efforts pour le groupe. Donc, on se déplace à 12, on perd 2-1 à la mi-temps. On a 2 blessés en première mi-temps, ce qui nous oblige à jouer toute la deuxième mi-temps à 10 contre 11. On arrive à exister les 10 premières minutes et puis derrière on prend 3 buts et on perd 5-1.
Nous on veut savoir le but.
Cucu qui n'est pas là aujourd'hui, notre capitaine Cucu. En tout cas, j'en profite pour féliciter les 12 filles qui se sont déplacées, qui se sont bien battues et qui elles peuvent être fières de ce qu'elles essayent de faire pour faire maintenir cette équipe féminine malgré toutes les circonstances.
Alors le but de Cucu, c'est ça qu'on veut savoir. Comment elle a marqué son but
Le but de Cucu, figure-toi que je suis en train de lui gueuler dessus. Non, je suis en train pas de lui gueuler dessus, mais lui demander de se replacer parce qu'elle avait fait un sprint. Il faisait très chaud à Nîmes hier et elle avait fait un sprint où elle était au bout de sa vie. Donc je lui gueule 2-3 fois dessus de se replacer. Quand je vois qu'elle est en train de mourir sur le terrain, j'ai dit allez arrête parce qu'elle en peut plus. Et en fait, à ne pas se replacer, il y a eu une mauvaise passe de la défense adverse. Elle était entre les deux. Elle a pris le ballon. Elle a frappé. Elle a marqué.
Heureusement qu'elle ne respecte pas les consignes.
Exactement.
Le sens du but.
Quelle insolence.
Non, mais elle a fait exprès d'être fatiguée pour, tu vois, se faire oublier la défense et bim. Et U18, Gambardella, 2-1 contre Latte.
2-0.
Ouais, alors 2-0, 2-0 l'info est mauvaise et info bien par émission quand même.
Ben ouais, mais c'est l'AFL, c'est sur le site de l'AFL hein, que c'est.
Non,
écrit.
Il y a écrit 2-0
sur le site. Non, c'est pas possible.
Non, il y a marqué 2-1.
Il y a eu 2-1 en championnat. Coupe Occitanie U17 contre le Monastère.
Coco, j'ai te demandé de pas changer le poste que tu as mis hier là dans la demi-heure qui suit pour que je puisse montrer à mes collègues qu'il y a bien marqué de.
Non, mais c'est sûr.
Allez, c'est pas grave.
Du coup, au stade, ben voilà, j'ai regardé ce match. Donc, alors, est-ce que ça reflète le match ou pas? Pas forcément. Une équipe de Latte qui a été quand même entreprenante.
Ouais, qui a marqué 2-1 sur Facebook. Mais il y a eu 2-0.
Merci, chers amis.
Une bonne entame de match de la part de. Après, ça t'intéresse pas le résumé du match, tu me dis sinon.
Si, pardon, excuse-moi.
C'était écrit samedi.
Vas-y.
Une équipe de Man qui est bien rentrée dans son match, qui a sur les 10 premières minutes là, qui ont proposé de belles choses avec un gros duel physique sur les 10 premières minutes là. Vu comme c'était parti, je m'étonnais au début que le match termine à 10, enfin termine à 11 de chaque côté. Finalement, ça a été le cas. Ça s'est calmé au bout d'un quart d'heure. L'AFL qui ouvre le score sur coup franc. À partir de là, ils ont un peu, à mon sens, levé le pied et une forte domination de Latte sur cette fin de première mi-temps et pareil en début de deuxième mi-temps. Malgré tout, Mande qui essayait de faire du jeu de ressortir et c'est les consignes à Daniel, mais qui souvent avait du mal à ressortir proprement et donc les adversaires qui avaient beaucoup le ballon. Mais Mande a réussi à faire le dos rond, a été costaud sans trop avoir la balle, a réussi à être costaud et sur le dernier quart d'heure, et ben à l'image du premier quart d'heure, on regagne d'énergie où Mande a été beaucoup plus entreprenant, ceux qui sont créé les occasions, qui ont concrétisé par un deuxième but, ce qui permet de l'emporter 2-0. Peut-être pas la meilleure prestation des hommes de Daniel, mais à noter quand même que sur les temps faibles mandois, Mande a réussi à être très fort. Il n'a pas concédé de but et sur ses temps forts a marqué par deux fois, donc de très bonnes choses pour la suite pour les hommes à Daniel.
Mais surtout qu'il les avait déjà affrontés la semaine d'avant en championnat, oui, et Mande avait gagné 1-0. Donc là, tu venais aussi quelque part dans un sentiment peut-être de revanche, quoi. Je pèse mes mots. Et je pense que la plupart de l'équipe de Latte évoluait aussi l'an dernier en 17 nationaux, donc c'est
pas mal.
Deux très bons résultats coup sur coup et ça confirme ce que je pense, ce que j'avais dit dans cette émission, il perd quelque chose dans cette gambardée-là.
On va voir ça. Les U16 ont gagné aussi en Coupe Occitanie.
Ouais, 2-1 contre le Monastère.
Voilà. Le Mans de volley Lozère est défait en amical contre les Toulouse Pacers.
Tu parles de mes défaites, mais tu parles pas de celles de mon collègue.
Non, mais on va pas, ça va, ça suffit, le pauvre. Laisse-le, il est en train de reconstruire son équipe, c'est pas pareil.
Et moi, ça déconne.
Mais toi, tu reconstruis rien, tu as gagné la coupe l'an dernier, t'étais le plus grand entraîneur de Lozère.
La moitié de l'équipe qui s'est barrée, quoi.
Ouais, mais c'est pas grave. Patrick, défaite 3-1 contre les Toulouse Pacers.
Oui.
C'est quoi ces Toulouse Pacers?
C'est une équipe de Liga.
Ah.
Donc,
je croyais que c'était quoi?
On peut pas avoir un nom comme ça, non?
Ben, si, il faudrait le créer.
Hein, on peut pas avoir un nom comme ça, les Mandes.
Vas-y, qu'est-ce que tu nous inventer?
Les Chewbacca Mandes. Voilà. Un truc comme ça. C'est clair. Tiens, on va jouer chez les Chewbacca Mandes. Ouais.
Voilà, donc, c'était au pied court. Donc, c'est la poursuite de tous ces clubs de Liga qui viennent en Lozère pour faire des matchs amicaux. On a vu Narbonne. Les semaines précédentes, puis là c'était autour de Toulouse, et puis ce week-end il y avait un tournoi amical à Arles où le MVL s'est incliné en finale contre Avignon, qui est un peu notre bateau noir. Donc on avait fait 2-2 à Villefort, un match amical, on en avait déjà parlé, et donc là 2-7-0 pour Avignon avec toujours le même scénario, c'est-à-dire le passeur avignonnais Ricardo Martinez qui est exceptionnel au service et donc qui a fait encore une fois des séries de 4, 5, 6 points d'affilée.
Et
donc
notre ami pointu qui a dû envoyer du...
Voilà, mais ils ont maintenant mis le central Bozovic qui joue maintenant à la pointe, un Serbe, qui est aussi fabuleux. Donc ces deux joueurs,
Serbe,
chaque fois, ça fait des misères.
Ça fait
du
volley-ball
à chaque fois au MVL. Et donc c'est vrai que Costant était un peu agacé parce que ils arrivent à tenir des services contre des clubs de Ligue A et puis tu joues contre un club d'élite, en particulier ce passeur qui est un phénomène et donc tu n'arrives pas à lui remettre ses services et chaque fois tu te fais bananer quoi. Mais bon, après on est en préparation, ça monte tout doucement en puissance. Il y avait eu cette victoire au PC Robinson contre des gros clubs de Liga et de Ligue B. Donc voilà, ça se
met en place tout doucement. Du coup, Patrick, tu peux nous rassurer, on fera plus de matchs contre Avignon, là, c'est fini.
Et si, je crois qu'il y en a un, encore un la semaine prochaine, ou cette semaine, je crois que c'est ce mercredi, comme ils étaient venus à Villefort, je crois que là, cette fois, c'est le match retour à Avignon.
À Avignon, d'accord. Eh ben. Voilà. Là, ils étaient à Arles, à Yettre, ils auraient pu.
Ouais.
Ils auraient pu faire les deux, quoi.
Mais vrai. En tout cas, rassure-toi, en championnat, bien sûr, on les jouera pas puisque Avignon est descendu en élite.
Avant de passer.
Il y a eu le tirage à coup d'offense aussi, je sais pas si vous en avez parlé.
Non.
Mais déplacement, le premier tour, une sorte de cadrage à Lyon. Lyon qui joue en élite. Et donc, ça sera après le début du championnat, puisque le championnat débute le 12. Avec la réception
c'est
du.
C'est notre réserve qui joue.
Non, c'est notre première. Et donc, début du championnat, le MVL reçoit le PC Robinson le 12 octobre. Et donc, en semaine, le 22, c'est un mardi, déplacement à Lyon pour ce tour de cadrage. Et s'il y a victoire, qualification pour les huitièmes de finale. Donc là, après, tu peux prendre Tours, tous les gros clubs de Liga.
Coupe de France qu'on n'avait pas fait l'an dernier.
Oui, parce que la Ligue avait interdit aux clubs de Ligue B de la faire. Et là, cette année, ils ont le droit.
C'est ça que je vous demandais si c'était la réserve.
Ils ont tiré ça au sort au début, là. Ils disent, bon, oui ou non? Allez, oui.
Ah ouais, s'ils peuvent le filmer aussi, c'est un grand moment. Ça,
ouais, c'est génial.
Le tirage au sort du volet de Coupe de France, c'est énorme.
Ça manque.
Tiens, avant de passer au moment important de cette émission, c'est-à-dire au jeu des pronostics, le conseil pour ce week-end, d'aller voir sur toute la Lozère, qu'est-ce qu'on va voir comme match? Qu'est-ce que vous me conseillez?
Moi, si je peux faire un peu de pub pour le mien.
Vas-y, mais tu peux.
Pour le mien, samedi après-midi, 15h30 au Cos Doge. Alors, j'ai pas encore le terrain, ça dépendra des créneaux. On joue contre Alès.
Ah,
gros morceau du championnat. L'équipe est un peu mieux. Bon, puisque Nico voulait en parler, je vais dire un mot rapide. On a perdu ce week-end 5-1 en Coupe Occitanie U15. En face, c'était que des U15. Moi, j'avais que des U14. Donc, c'est sûr qu'à cet âge-là, ça joue. Mais en championnat, on est.
T'as la moustache
en championnat, on est
14 ans et 15 ans.
En championnat, c'est un peu mieux. La semaine dernière, on avait fait 2-2 à Canet en Roussillon. Donc, c'était un bon score.
Mais
donc,
on en a parlé la semaine dernière.
Ce week-end, on affronte Alès. Donc, si vous savez pas trop quoi faire. Et en même temps, il y a les U16 aussi qui jouent en U16 R2, qui jouent contre Frekel Cabard en championnat. Donc, un bon plan, un bon samedi au COS.
OK.
Samedi après-midi.
L'équipe à Vlad aussi qui joue, non?
Vlad aussi en championnat, ouais, contre Saint-Afrique en U15-D1. Il y a aussi les U18-2 de Adriano qui jouent au COS. Et les U18 de Daniel qui sont en déplacement à Montpellier-Arceau.
Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu nous conseilles, Laurent?
Je sais pas. Moi, j'irai pas voir le foot parce que, comme dimanche, j'ai un vétathlon, je pourrais pas venir.
Pas sortir, ouais.
J'irai m'entraîner.
C'est samedi, Julien.
De quoi? Oui, mais moi, je
rester frais.
Tu vas t'entraîner, ouais. Pardon, excuse. Ouais. Dernier jour de prépa.
On a fait de la pub pour le vétathlon. Je pense que j'irai, moi.
Ouais.
C'est sûr.
Ok. Patrick, tu conseilles quoi?
Il y a beaucoup de hand, on l'a dit, aussi bien en Lozère qu'au MJC. Et puis après, sinon, c'est vrai qu'en foot, il y a beaucoup de clubs qui jouent à l'extérieur. Bah, la FL, même Saint-Chély, enfin, même le NL, le rugby, il n'y a pas de match. Langogne est à l'extérieur aussi.
Donc, après, à moins qu'on aille encourager Tom ce week-end.
On joue vendredi soir contre le Massegro.
Ah non, il y a basket vendredi soir.
Je sais pas. Il y a NCIS.
Alors le basket qui a eu son match reporté, qui joue vendredi soir normalement à domicile.
Normalement.
On y sera.
Pour revenir aux équipes de jeunes, je crois qu'il y a les U18 de l'ENL qui joue en Gambardella contre Espali dimanche à 15h, il me semble.
Ah, bon rendez-vous. Allez, les pronostics avec pour l'instant la logique qui est respectée. Tom et moi à 1 point, les autres à 0. Ligue des champions, Galatasaray, PSG, Leipzig, Lyon et Lille-Chelsea. Alors, on va commencer avec Cucu qui nous dit... 3-0 pour Paris à Galatasaray. Jeudi, 2-1 pour Paris à Galatasaray. Laurent.
2-1 pour Galatasaray.
Ok.
Je vais dire 3-0 pour Paris aussi.
Ok, c'est bien. Nico.
1-3.
1-3 pour Paris. Ok. Tom.
1-4.
1-4. Oula, grosse cote ça.
1-0 pour Paris.
1-0 pour Paris. Leipzig, Lyon, eh bien.
Quelle belle prononciation.
Ouais, t'as vu ça? Leipzig. Alors, Cucu nous dit 1-0 pour Lyon à Leipzig.
Leipzig.
Sur penalty. Alors, moi, je vais dire 2-0 pour Leipzig. Lolo.
1-1.
Ok.
Je vais dire 2-1 pour Leipzig.
2-1 aussi pour Leipzig.
1-0 pour Leipzig.
Ouh là là.
2-2.
Allez. Tu vois, toujours le chauvin, là, qui veut pas regarder le match en disant « Allez, Leipzig, pour marquer des points », comme ça, il peut se dire « Allez, 2-2 ». Très bien. Lille, Chelsea, Mathilde nous dit 2-0 pour Chelsea. à Lille. Je vais dire 1-0 pour Chelsea à Lille. On va dans l'autre sens. Allez, Patrick.
Un partout.
3-1 pour Chelsea.
Ok.
2 partout.
1-0 pour Lille.
Cher Laurent.
0-0.
Ok, un bon 0-0 à la Lilloise. Ça me plaît. Allez, ok, parfait, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles et des nouveaux résultats sportifs. Hein, ça vous va? Il est en forme, hein, Lolo.
Oui, après le vétatlon.
On va voir combien tu termines.
Un petit peu dans le ventre mou, quoi.
Ouais, c'est ça.
On va le voir assécher lundi matin, Lolo, après.
Un peu courbaturé.
On va devoir l'hydrater toute l'émission. Aïe, aïe. Allez, ciao.
Allez,
bon, ouais.
Ciao.
Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Peter Marquet. Je ne dis rien.
La c'est le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Il t'a dit apéro.
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme.